Bonsoir à tous. Monsieur Hugo m'a demandé d'apporter la parole ce soir, alors c'est avec plaisir que je vais le faire. Et je vous invite tout de suite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Voilà, c'est un message que j'ai sur le cœur. J'ai déjà apporté une fois à la jeunesse, mais je l'ai vraiment eu à cœur pour ce soir. Donc je crois que le Seigneur veut à tous nous parler au travers de ce texte que nous allons méditer. Donc c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, le repas de la Pâque est fini. Judas en est allé pour vendre Jésus. Et dans ses derniers moments avec ses disciples, avant la fin de son ministère terrestre, Jésus va laisser ses derniers conseils. Et il va leur laisser cette parabole. Donc Jean, chapitre 15, à partir du verset 1er. Il est écrit... C'est Jésus qui parle et il va dire « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. Cette parabole, c'est ce que Jésus va dire à ses disciples. Et on voit que dans la vie du chrétien, dans ce texte, il y a un but. Et clairement, dans ce texte, on voit qu'il nous est parlé de porter du fruit. Pourquoi ? C'est écrit au verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Et je crois que quand on est chrétien, il y a un désir, c'est que Jésus-Christ y soit glorifié. Glorifié, c'est quoi ? C'est mis en avant. Et je crois que lorsque... on est venu disciple de Jésus-Christ, lorsqu'on a vécu la vie avec Jésus, lorsqu'on a goûté à sa gloire, qu'on a goûté à son pardon, on a une seule envie, c'est que ça soit Jésus qui soit glorifié, qui soit élevé, qui soit mis en avant. Ce que l'on veut, c'est pas simplement ce que nous on a vu, la manière dont on voit Jésus, les autres le voient aussi. En sorte que nous on diminue et que lui il grandisse. Et que quand les gens nous voient, au final, c'est pas vraiment nous qui voient, mais qu'ils voient en plus l'œuvre de Jésus, qu'il voit Jésus-Christ. Et dans ce texte, il nous est dit, pour que le Père soit glorifié, c'est si vous portez beaucoup de fruits. Ça veut dire que si je veux que les autres voient Jésus-Christ, si je veux que Jésus-Christ, que Dieu, soit glorifié, le moyen qui nous est donné, c'est de porter du fruit. Porter du fruit. C'est quoi un fruit ? Ben, un fruit, c'est la vie du dedans de l'arbre qui sort au dehors de l'arbre. C'est ce qu'il y a dedans qui est caché, ce que je vis dans mon cœur, ça sort dehors. ce qui est caché devient visible. La vie qu'il y a dedans, elle peut être vue et goûtée par les autres. C'est le fruit. Et c'est vrai que nous, qui sommes chrétiens, on a cette vie. Mais ce qu'on désire, c'est que les autres puissent aussi y goûter. Ce qu'on désire, c'est que ceux qui nous côtoient puissent voir Jésus-Christ, qu'il soit glorifié. C'est que ce qui est invisible aux autres et qui se passe dans notre cœur devienne visible. Que Jésus soit glorifié, qu'il y ait ce fruit, le fruit de l'esprit, vous savez, le caractère de Christ. En sorte que quand les autres nous voient, ils se rendent compte qu'il n'y a pas que nous, mais il y a quelqu'un dans notre vie. Il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. Et qu'au final, que celui qui soit remarqué dans ma vie, ça soit pas simplement moi, mais que ça soit Jésus-Christ. Pour cela, il y a un moyen, c'est de porter du fruit. Et dans ce texte, on voit que Jésus va nous laisser un enseignement pour y arriver. On voit que dans cet enseignement, c'est au final le moyen pour porter du fruit. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Si je vous donne la recette d'un gâteau, je vous dis, vous prenez tant d'œufs, tant de farine, tant de levure, vous les mélangez de telle manière, et vous mettez au four à tel degré pendant tant de temps, et ça fait tel gâteau. Si tout le monde fait la même recette, et applique, prend les mêmes ingrédients, les met ensemble, fait la même méthode, la met le même temps au four, qu'est-ce que ça va donner? Le même gâteau. Si on utilise tous la même méthode, le même modèle que Dieu nous donne, on va tous arriver au même résultat. Ça veut dire que tous ce soir, on peut porter du fruit. Il suffit juste d'appliquer ce que Dieu nous dit pour le faire. Si j'applique, alors je porterai du fruit. D'ailleurs, je veux dire que si je l'applique, c'est impossible que je ne porte pas de fruit, puisque c'est le moyen que Dieu nous donne pour porter du fruit. Donc si j'applique les mêmes choses que Jésus a conseillées à ses disciples, eh bien, je vivrai la même chose. Vous savez, les disciples, c'était pas des gens qui étaient meilleurs que nous. Ce sont juste des gens qui ont obéi à Jésus-Christ et qui ont appliqué ce que Jésus leur a demandé de faire. Alors, ce soir, on va regarder cela au travers de cette parabole, donc des cèpes et des sarments, et on va relever trois principes qui vont nous aider à porter du fruit. Donc, il y a cette petite parabole, et Jésus dit donc au verset 1er, « Je suis le cep et mon père est le vigneron. » Et au verset 5, il répète, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. » Donc dans cette parabole, nous sommes comparés à une vigne. Vous savez, le cep c'est quoi? Le cep c'est, on va dire, le tronc, et le sarment c'est la branche. Donc Jésus-Christ est comparé au tronc, au pied de vigne, et nous sommes comparés à des sarments. La première chose que l'on peut voir dans ce texte, c'est écrit au verset 4 et 5. Le premier principe, il est écrit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La première chose qu'on voit dans ce texte, c'est que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Un sarment tout seul, une branche tout seul, ça ne peut pas porter du fruit. Pourquoi? Parce que l'origine du fruit, c'est pas dans le sarment. L'origine du fruit, c'est dans le cep. Au final, le sarment, c'est quoi? C'est juste un intermédiaire entre la vie qu'il y a dans le cep et le dehors. Et au final, pourquoi si je veux porter du fruit, il faut que je sois attaché au cep. Ce qui produit le fruit, c'est pas moi. Ce qui produit le fruit, c'est la présence de Jésus dans ma vie. Si je n'ai pas Jésus dans ma vie, s'il n'y a pas Jésus qui œuvre dans ma vie, je ne pourrai pas porter de fruit. Parce que le fruit ne peut pas venir de moi. Le fruit, il vient de Jésus. Est-ce que les autres voient? Ce n'est pas mon œuvre à moi. Ce que les autres voient, ça doit être l'œuvre de Jésus-Christ. L'œuvre de Jésus-Christ. On peut faire tous nos efforts, passer des années à faire des efforts pour ressembler à Jésus, pour faire comme lui, on n'y arrivera pas. Nous, ce qu'il nous faut, c'est non pas imiter Jésus. Ce qu'il nous faut, c'est être avec Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on est avec lui, lorsque le sarment est avec le cep, alors il peut y avoir du fruit. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas nous, c'est Jésus-Christ au travers de nous. Si on veut porter du fruit, La première chose à réaliser, c'est que tout seul, je ne peux pas. Si je veux porter du fruit à la gloire de Jésus-Christ, il me faut Jésus-Christ dans ma vie. Il faut que le cep que je suis, le canal que je suis au final, soit connecté à la bonne source. Et cette source, c'est Jésus-Christ. S'il n'y a pas Jésus dans notre vie, il n'y aura jamais de fruit. S'il y a Jésus dans notre vie, alors il ne peut pas ne pas y avoir de fruit. Parce que c'est Jésus-Christ qui fait l'œuvre. Alors on peut se dire, mais comment recevoir cette vie? Comment recevoir cette œuvre de Jésus? Et on voit au verset 4, donc comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Et on voit que dans cette parabole, il nous est pas simplement dit que le sarment il doit être au contact du cep. Il nous est dit que le sarment il doit être attaché au cep. Et vous savez, il y a une différence entre côtoyer Jésus et être attaché à Jésus. C'est pas la même chose. Vous savez, pour côtoyer Jésus, c'est assez facile. Il suffit de venir à l'église, il suffit de lire la Bible, il suffit de côtoyer des gens qui sont spirituels, qui peuvent nous donner des paroles de Dieu. On peut venir à l'église souvent, ressentir, voir des réalités spirituelles. On peut même voir Jésus agir et savoir que c'est la réalité, que c'est bien lui qui agit. Mais côtoyer Jésus, c'est pas la même chose que s'attacher à Jésus. On peut venir à l'église, on peut venir le dimanche matin, le dimanche après-midi, le mardi soir, le jeudi après-midi, le jeudi soir, le samedi soir, et toutes les réunions qu'on pourrait rajouter au plus, et côtoyer Jésus, mais ce n'est pas parce que je le côtoie que je suis attaché à lui. Celui qui est attaché à lui, c'est qui? Ben, c'est celui qui a fait le choix de s'unir à Jésus-Christ. Vous savez, il y a cette image dans Matthieu 11, 28, où Jésus va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, prenez mon joug sur vous. » Vous savez, le joug, c'est une pièce qui sert à attacher deux bêtes ensemble. C'est pas juste que les deux bêtes, elles sont à côté l'une de l'autre, mais c'est que les deux bêtes, elles sont liées l'une à l'autre. Il y a un attachement. Et c'est pas parce qu'on vient ici dans ce lieu, c'est pas parce qu'on écoute la parole de Dieu, c'est pas même parce qu'on passe du temps dans la prière que ça veut dire qu'on est attaché à Jésus-Christ. Être attaché à Jésus-Christ, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Vous comprenez? On peut pas séparer l'un de l'autre parce qu'il y a une union. Et dans la Bible, ça regorge de ces images. Il y a l'image du joug, il y a l'image du cep, il y a l'image de l'époux et de l'épouse. Vous savez, s'il y a un époux et une épouse qui sont juste à côté sans lacer, c'est bizarre. Quand il y a de l'amour, il y a de l'enlacement. Comprenez? Eh bien, c'est pareil. Être attaché à Jésus, c'est avoir fait le choix d'unir ma vie à lui. En un mot, c'est quoi? C'est la communion. La communion, c'est quoi? C'est la commune union. C'est une union réciproque. Et vous savez que lui, Jésus-Christ, il a fait son choix. Il a fait le choix de s'unir à nous. Et ce choix, ça lui a coûté cher. Jésus-Christ, il a fait le choix de descendre du ciel. Il a fait le choix de se dépouiller de sa gloire. Il a fait le choix de se rendre obéissant jusqu'à la croix. Parce que le choix qu'il a fait, c'était de s'unir à nous. Et que ce qu'il voulait, c'était être avec nous. Et ce choix, il l'a prouvé. Ce choix, ça lui a coûté. Et ça a coûté à Dieu. Parce qu'il voulait une chose. C'est pas juste être à côté de nous. C'est être uni à nous. Mais ça, c'est le choix de Dieu. Il l'a déjà fait et il a prouvé qu'il nous aimait. Mais la question, c'est, est-ce que j'ai fait le choix, moi, de m'unir à Jésus-Christ? Parce que pour porter du fruit, pour glorifier Dieu, il faut pas juste le côtoyer. Pour glorifier Dieu, il faut s'unir à lui. Le début du verset 4, « Demeurez en moi », ça c'est notre part, « et je demeurerai en vous ». Ça c'est la part de Christ, la communion. Un homme qui fait le choix de s'unir à Christ, il y a l'œuvre de Jésus qui se fait dans sa vie. Quelqu'un qui a choisi d'être en communion avec Jésus-Christ, il ne peut pas ne pas porter de fruits, parce qu'il y a Jésus dans sa vie, et lorsque Jésus est dans la vie de quelqu'un, il fait son œuvre. Il restaure, il guérit, il transforme, il relève, il console, il fait une œuvre que nous on ne peut pas faire, mais que lui, il peut faire. À la croix, on l'a chanté, il a tout accompli. Et lorsqu'il est dans notre vie, tout ce qu'il a voulu pour nous s'accomplit. Et au final, dans cette parabole, On voit que Jésus, il demande pas tant à ses disciples de porter du fruit par eux-mêmes. Ce qu'il demande à ses disciples, c'est de s'attacher à lui. Et la vraie question qu'on peut se poser, c'est pas est-ce que le sarment porte du fruit, mais est-ce que le sarment est attaché au cep? Le plus important, c'est pas de porter du fruit. Le plus important, c'est que ça soit le cep qui nous porte, nous. Le plus important, c'est que je sois uni à Jésus-Christ. Et vous savez que ce qui met une séparation entre nous et Dieu, c'est quoi? Ben, c'est le péché. Dans Ésaïe 59, c'est dit que ce qui met une séparation entre nous et Dieu, c'est le péché. Alors c'est comment on fait pour rester attaché à Jésus-Christ? Ben, c'est simple. À chaque fois qu'il y a un péché, je m'en repens et je crois que le sacrifice de Jésus est efficace pour me pardonner de tout péché et de toute iniquité. Vous savez, dans Hébreux 3, verset 12, il est dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Et on voit qu'au final, il y a deux choses qui peuvent agresser la communion avec Dieu. C'est un cœur méchant, mauvais, ça veut dire que c'est un cœur qui ne se repent plus. Et incrédule, c'est un cœur qui ne croit plus. Et pour garder cette communion avec Jésus-Christ, il est important d'avoir ces deux choses. Un cœur qui se repent, autant de fois que je dévie, autant de fois qu'il y a une tâche dans ma vie, je m'en repens. La repentance, c'est pas une porte qu'on a franchie un jour, la repentance, c'est un chemin qu'on a choisi d'emprunter. Et à chaque fois que je dévie de ce chemin, je reviens, je m'en repens. Parce que si je me repens pas, si je ne garde pas ce cœur brisé et contrit par le péché, ben je deviens, comme la Bible dit, méchant. Dans ma vie, je tolère le mal, est incrédule. C'est-à-dire qu'il faut aussi, c'est bien de se repentir, mais il faut garder la foi. Est-ce que vous croyez toujours que le sang de Jésus-Christ est efficace pour vous pardonner de tout péché et de toute iniquité? Oui, et bien voilà. C'est comme ça qu'on entretient la communion, c'est comme ça qu'on reste attaché à Jésus-Christ. Attaché. Pour porter du fruit, c'est la communion, le premier point, le plus important. Mais est-ce que ça suffit? On a vu que la communion, ça amène la vie. C'est vrai qu'une vigne, le sarment qui est connecté, qui est branché, qui est en contact, attaché au cep, il y a cette vie. Vous savez, vous avez déjà vu une vigne, il suffit d'aller à côté. Quand c'est parti, hein. Ça pousse dans tous les sens, il y a la vie. D'ailleurs, un arbre, quand il est vivant, on le voit, hein. Il y a du feuillage très vite quand ça pousse. Mais est-ce que ça suffit pour porter du fruit? Est-ce que si cette vigne, il y a plein de sarments qui sont attachés au cep, ça va suffire pour porter du fruit? Si je la laisse comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va devenir une touffe de feuilles. Il y aura pas de fruits. Il va y avoir plein de ramifications qui vont partir dans tous les sens. Et au final, ma vigne, ça va devenir un joli buisson. Mais elle ne va pas porter de fruits. Pourquoi? Parce que pour qu'une vigne porte du fruit, pour qu'elle porte beaucoup de fruits, il y a besoin d'un émondage. Et c'est ce qu'on voit au verset 2. Il est écrit que tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Pour porter encore du fruit, pour porter beaucoup de fruits, la communion, c'est l'indispensable. Mais il n'y a pas que ça. Si je veux porter beaucoup de fruits, il y a besoin que ma vie, que le sarment que je suis, passe par des émondages. Des émondages. Alors pourquoi le vigneron il fait ça? Et qu'est-ce qu'il fait? Au final, si on regarde bien, il y a trois types d'émondages. Il y a l'émondage quand le raisin il est déjà là. Il est en train de pousser comme en ce moment là, il est en train de pousser. Et que fait le vigneron? Bien, il y a des sarments qui poussent en plus, il y a des morceaux de sarments qui poussent, il les enlève. Pourquoi? Parce que il veut que la sève, elle se canalise dans le fruit. Et ça nous parle de ces moments où des fois, vous savez, il y a le fruit, il y a la vie, et puis on a envie d'aller des fois dans certaines directions, on a envie de faire certaines choses. Et le Seigneur, il vient avec son sécateur, il fait non, quick. Puis là aussi non, quick. Puis là je veux pas non plus, quick. Et oula, pourquoi? Parce que si on se disperse dans tous les sens, le fruit n'arrivera pas à maturité. Et des fois le Seigneur permet dans nos vies, qu'il y ait ces petits émondages pendant que ça pousse, parce qu'il veut que le fruit arrive à maturité. Et il veut qu'on se concentre sur ce qui est le plus important. Ensuite, il y a un autre émondage. Avant que les raisins commencent à bien croître, il y a un moment où, pendant le printemps, quand ça pousse, il y a ce qu'on appelle l'émondage du printemps, enfin il me semble, où au final, on coupe pour limiter le nombre de grappes. C'est-à-dire que une fois qu'elle pousse, la vigne, il y a beaucoup de grappes. Et au final, en fonction du type de raisin que l'on veut, on laisse 2 ou 3 grappes par sarment. Parce que si on laisse plus de grappes, au final, pareil, les grappes, elles arriveront pas à maturité. Ça veut dire qu'on diminue, on restreint le nombre de grappes. Et je crois que ça nous fait penser au fait que quand Jésus a confié des choses à ses disciples, il a donné des talents. À l'un, il en a donné 1, à l'autre, il en a donné 2, à l'autre, il en a donné plusieurs. Et vous savez, si on essaye de faire plein de choses, au final, si on a trop de services, s'il y a trop de choses où on se disperse, s'il y a trop de grappes, à un moment, il n'y aura pas le fruit qui arrivera à maturité. Et des fois, le Seigneur, pareil, il peut limiter le nombre de ce que l'on peut porter, il peut limiter le service, parce qu'il sait que si on en fait trop, on n'y arrivera pas. J'ai un ami qui dit souvent, disciple de tout, maître de rien. Et c'est vrai que si on fait trop de choses, à un moment, on ne peut pas y arriver. On a tous une capacité. Et des fois, le Seigneur, il vient aussi avec son sécateur pour limiter ce que l'on fait. Pourquoi ? Parce qu'il veut non pas qu'on soit écrasé par le poids de ce que l'on fait, mais il veut que le fruit arrive à maturité. Et puis des fois, enfin même toujours, il y a l'émondage d'hiver. Alors ça, c'est quand on a déjà porté du fruit, que la vigne, elle a vraiment porté son fruit, qu'on a fait la vendange. Il y a le vigneron qui vient et qui fait un émondage. Mais alors là, c'est l'émondage violent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous pouvez aller sur Internet, vous cherchez la taille de la vigne, et vous allez voir qu'il reste plus grand-chose au sarment. Mais quand je dis qu'il reste plus grand-chose, c'est vraiment plus grand-chose, hein. À se demander, même, on a l'impression qu'il reste que le cep. Et puis, un tout petit bout de sarment rikiki. Avec 3 bourgeons. Pour laisser la place au futur bois. Pourquoi? Parce qu'une vigne, elle ne peut porter de bons fruits que sur le bois de l'année. En fait, si vous laissez le bois, et que vous laissez l'année d'après, ça portera pas de fruits. Une vigne, elle porte du fruit que sur le bois qui a poussé pendant l'année. Sinon, elle portera pas de fruits. Sinon, ça devient une écorce qui se granuleuse et ça marche pas. À quoi ça fait référence, ça? Ces émondages-là. Eh bien, ces émondages-là, c'est ces moments où Dieu enlève beaucoup dans notre vie. C'est des moments où Dieu permet que certains aspects de notre vie soient beaucoup raccourcis. C'est des moments où on peut perdre. C'est des moments où on peut être blessé. C'est des moments où on peut être réduit à l'extrémité de ce que l'on est. Ça peut être par des personnes, par des circonstances, par des frères et sœurs. En d'autres mots, c'est l'épreuve, l'adversité, la fournaise, le brisement. Il y a plein de termes dans la Bible. C'est les très très grosses épreuves. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? D'arriver à des moments où vous en êtes réduit à l'extrémité. On peut pas raccourcir plus. Et on peut se dire, mais qui permet ces choses, ces grandes épreuves? C'est Satan? Non. On voit que c'est le vigneron. C'est l'œuvre du vigneron. Et ici, ça nous est pas parlé d'être raccourci à cause du péché. Le péché, c'est ce qui nous sépare. Là, c'est vraiment l'épreuve qui nous pousse à l'extrémité. C'est les souffrances que l'on peut avoir lorsque l'on est fidèle à Jésus-Christ. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est au verset 3. Et le mot pur, en fait, c'est le même mot que émondé. En gros, on pourrait le traduire, déjà vous êtes émondé à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et c'est vrai que des fois, parce que l'on est chrétien, on passe par certaines souffrances. Et on peut se dire, mais pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi est-ce qu'il nous réduit des fois à l'extrémité? C'est parce qu'il aime ça? Non, je crois pas. Parce qu'il nous aime et Et c'est pas un plaisir pour Dieu qu'on passe par la souffrance. Pourquoi Dieu permet ces temps d'émondage? Eh bien, on l'a lu. C'est parce que si on passe par ces temps d'émondage, on portera beaucoup de fruits. Et pour porter beaucoup de fruits à la gloire de Dieu, c'est vrai qu'il faut être en communion, mais il faut aussi accepter le fait que Dieu puisse nous émonder. Et ça, c'est un principe qu'on retrouve dans toute la Bible. Regardez Joseph, le fils préféré de son père. Quick, esclave. Quick, en prison. Mais il est devenu prince d'Égypte. Il a sauvé toute sa famille, et encore aujourd'hui, on parle de lui, et il a glorifié Dieu. Il a glorifié Dieu. Moïse, prince d'Égypte, quick, berger. Plus pendant 40 ans. Mais il est devenu prince d'Israël, médiateur de l'ancienne alliance. Et encore aujourd'hui, on parle de lui. Et il a glorifié Dieu. On pourrait parler de Job. Alors lui, il a été raccourci vraiment à l'extrême. Mais il a glorifié Dieu. Et il a reçu au double de ce qu'il avait. On pourrait parler de Jésus, intègre, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, qui est venu sur terre pour nous aimer. Vendu, emprisonné, crucifié, mis au tombeau, mais ressuscité, assis à la droite du Père, ayant tout pouvoir entre ses mains, et il nous a tous bénis, parce qu'il a accepté de mourir pour nos péchés. Et si Dieu, c'est un principe, on pourrait parler d'Abraham, de Daniel, de Jacob, au final de tous ceux qui ont été utiles dans la Bible, on voit qu'il y a eu ces émondages. Tous ceux qui ont glorifié Dieu et qui même encore aujourd'hui servent à ce qu'ils soient glorifiés des millénaires d'années après, c'est parce qu'ils ont accepté de passer par un émondage. Et si Dieu nous émonde aujourd'hui, c'est pas parce qu'il veut nous détruire. Si Dieu nous émonde, c'est parce qu'il sait que demain, nous porterons du fruit. Si Dieu permet un hiver assez rude, c'est parce qu'il sait qu'il va y avoir un printemps glorieux. Et si on réfléchit bien, on voit que le fruit, au final, il n'est pas destiné à l'arbre. Le fruit, il est destiné à celui qui va en jouir. Et vous savez, il y a un texte où, dans 2 Corinthiens chapitre 1er, où il est écrit que « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. On souffre, on est consolé, on bénit les autres. C'est pas pour nous, c'est pour les autres. Le fruit, c'est pas pour nous, c'est pour l'autre. C'est, si vous voulez, le fruit de l'amour. L'amour, c'est quoi? Ben, l'amour, c'est se donner à l'autre. C'est quoi le contraire de l'amour? C'est l'égoïsme. C'est être centré sur soi. Et vous savez, il y a deux manières de voir le tombeau, la mort. Au regard humain, le tombeau, c'est la fin de quelque chose. Mais avec le regard de la foi, le tombeau, c'est le lieu de la résurrection. C'est là où tout recommence, en plus glorieux. Et si des fois Dieu permet qu'on soit un temps mis au tombeau, c'est parce qu'il sait que derrière, il y a quelque chose de glorieux. C'est vrai qu'en hiver, la vigne, elle semble morte. Mais en réalité, elle puise ses forces pour porter encore plus de fruits. C'est un principe. Oui, il y a la communion. Oui, il y a l'émondage. Et le troisième principe que j'aimerais voir, c'est il y a encore une dernière chose pour vraiment porter du fruit en abondance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le texte qu'on a lu, il y a un mot qui revient très très souvent. Je vais lire juste du verset 4 au verset 7. Vous allez le remarquer très vite. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous avez vu le mot qui revient souvent ? Demeurer. 9 fois dans ces 4 versets. Demeurer. Et pour porter du fruit, la dernière chose que l'on peut voir, c'est qu'il nous faut demeurer. Alors si on regarde dans le dictionnaire, c'est quoi demeurer ? Bah, demeurer, c'est rester quelque part et rester longtemps. Demeurer, c'est continuer à être dans un certain état, persister, persévérer, rester. Demeurer, c'est, il y a une notion de durée dans le temps. Il y a une notion de persévérance. Demeurer, c'est persévérer. Et vous savez, pour nous qui sommes chrétiens, il y a un piège. Le piège, c'est que parce que j'ai porté du fruit, je me dis que bah, je vais en porter encore. Et vous savez, c'est pas parce que j'ai porté du fruit dans le passé. C'est pas parce que j'ai été émondé d'une manière assez sévère, à certaines manières, et que j'ai reporté du fruit. C'est pas parce que j'ai vécu des grands miracles. C'est pas parce que j'ai vécu la plénitude du Saint-Esprit que cela me garantit que demain je vais porter du fruit. Ce qui garantit que je vais porter du fruit demain, c'est ma communion d'aujourd'hui. Et l'expérience, le fruit du passé, ne garantit pas le fruit du futur. Ce qui fait que demain je pourrai porter du fruit, c'est si aujourd'hui je persévère dans la communion avec Jésus-Christ. Et là, il y a un verset qui est assez sévère, qui est peut-être l'un des plus sévères, mais au final, c'est la vérité. Et on a besoin de l'entendre et on a besoin de le savoir. Au verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » Et vous savez, un sarment, il peut avoir porté des milliers de grappes, mais le jour où on le coupe et on le sépare du cep, eh bien, il pourra plus porter de fruits. Et au final, ce qui compte, c'est pas d'avoir été en communion. Ce qui compte, c'est aujourd'hui d'être en communion. Dans Hébreux 10, verset 38, il est écrit « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Hébreux 10, 38 et 39. Donc on voit qu'il faut persévérer. Et on voit aussi dans la Bible l'attitude de Paul. Et on voit que Paul, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde pas au passé, il regarde devant. Il va dire « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Vous voyez, Paul, il n'était pas à regarder le passé, il regardait devant. Parce qu'il sait que si aujourd'hui le Seigneur permet que nous soyons encore ici-bas, c'est parce qu'il sait qu'on peut porter du fruit. Parce que le jour où on a porté tout le fruit qu'on avait apporté, ben, il nous reprend. Hein. Il nous reprend. Il y a un choix à faire, c'est celui de demeurer avec Jésus-Christ, de persévérer. Et vous savez, lui, Jésus, il a aussi fait ce choix. Il a dit dans Matthieu 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il persévère dans son alliance. On a un texte dans Ésaïe où il dit « À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Il persévère dans le pardon pour justement que cette alliance soit, cette communion soit toujours avec lui. Et enfin, dans Ésaïe au chapitre 46 et au verset 4, il va dire, on va lire à partir du verset 3, il est écrit « Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous restez de la maison d'Israël. » Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Et que c'est rassurant de savoir que Jésus-Christ s'est engagé à persévérer et à demeurer avec nous jusqu'à la fin. Jusqu'à la dernière seconde de votre vie ici-bas, il est fidèle et il persévère dans son alliance. Mais aussi, c'est à nous de persévérer. Donc voilà les 3 principes. Et je crois que si on les applique, si on agit selon le modèle, on portera du fruit. C'est pas réservé à une élite de glorifier Dieu, c'est pour tout le monde. Mais il suffit d'agir selon le modèle qu'il nous a laissé. Et je vais juste vous laisser en conclusion un petit moyen technique, mémotechnique, pour mémoriser cette prédication. Donc comment porter du fruit? On a vu que c'était en restant attaché au cep. Le cep, ça s'écrit C-E-P. C comme la communion. E comme l'émondage. P comme la persévérance. Retenez ça. Pour porter du fruit, la communion, l'émondage, la persévérance. Amen. Merci Seigneur parce que tu as tout laissé pour notre instruction. Et nous voulons te dire merci. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as choisis. Et si nous aujourd'hui nous pouvons te choisir, c'est parce que tu en as payé le prix. Et même avant notre naissance, tu nous aimais déjà. Même avant notre naissance, tu avais un plan pour nos vies. Même avant notre naissance, tu avais pour but que nous glorifions ton nom. Et nous, Seigneur, c'est ce que nous voulons. Et je te prie pour que ces paroles puissent rester dans les cœurs, Seigneur. Et Seigneur, tu as dit aussi que nous sommes heureux pourvu que nous pratiquions ces choses. Et Seigneur, merci parce que nous pouvons être en communion avec toi. Seigneur, par la foi, merci pour les émondages. Parce que nous savons que quand tu les permets, c'est parce que tu permets que nous portions beaucoup de fruits et que c'est une bénédiction pour les autres aussi, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu t'es engagé à persévérer, à être tous les jours jusqu'à la fin du monde avec nous, Seigneur. Et nous voulons te dire merci pour cela, parce que tu es fidèle. Et nous aussi, Seigneur, de tout notre cœur, nous voulons rester avec toi, Seigneur. Où tu iras, nous irons, mais ce qui compte, c'est d'être avec toi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.